Je vais commencer un tout petit peu avant l'heure, quelques secondes avant l'heure. Donc aujourd'hui, troisième épisode dans l'exploration de l'architecture de la période de l'occupation. Je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur les professions, sur les institutions, sur les publications aussi, qui sont dans une certaine mesure une forme d'institution. Et au passage, rencontrer évidemment les lois raciales de Vichy et leur application aux architectes et par les architectes, certains d'entre eux en tout cas. Alors, il est évident que les années de l'occupation marquent un seuil dans l'histoire des professions de l'architecture dans ce pays, tout autant que dans les démarches des architectes. La pratique que l'on tentait depuis des décennies de réformer est réorganisée légalement, elle est aussi transformée, et la séance d'aujourd'hui ne suffira pas à le montrer, évidemment, dans son idéologie, dans ses techniques et dans ses dimensions artistiques. Toutes ces transformations aboutissant, après 1945, à une domination incontestable de la modernité, comme dans la plupart des pays combattants engagés dans la guerre, sauf et seulement pour une dizaine d'années, l'Union soviétique. Une remarque préliminaire. Les architectes ne sont pas les seuls à intervenir dans le champ de l'urbanisme et de la construction. Dans l'appareil de Vichy, notamment, les ingénieurs sont aux commandes. À la DGEN, à la Délégation Générale à l'Équipement National, dont je parlerai la semaine prochaine, c'est André Protin, ingénieur de la ville de Paris. Au Commissariat technique à la reconstruction immobilière, l'autre branche de l'appareil d'État reconstructeur, c'est André Mufang, dont je parlerai aussi la semaine prochaine. Il serait intéressant ici, et c'est sans doute un axe de travail utile, bien qu'on puisse assimiler le régime de Vichy au nazisme ou au fascisme, il serait intéressant de tirer des parallèles avec ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple, où les ingénieurs ont joué un rôle considérable à la fois dans la genèse et dans les politiques du nazisme. Je pense à ce propos à un très beau livre un peu ancien, qui est le livre de Jeffrey Heff, Reactionary Modernist, publié dans les années 90 et qui portait sur l'Allemagne de Weimar et sur le Troisième Reich et qui montrait combien la pensée, la technique et les techniciens, les ingénieurs, avaient été importants dans la montée du nazisme. Cette domination est assez mal ressentie par les architectes. Et là, il ne s'agit pas de la concurrence dont parlait Gideon en espace-temps et architecture entre les architectes et les ingénieurs de structure. Il s'agit d'une compétition pour le pouvoir, pour la décision. Ainsi, Auguste Perret, dont je parlais beaucoup aujourd'hui, fait une très délicate allusion au corps des ponts et chaussées dans sa correspondance avec Marie Dormoy, ce corps des ponts et chaussées qui contrôlait le ministère des Travaux publics, dit des Travaux publics de la Troisième République, et qui est très présent dans les institutions de Vichy. Dans une lettre qu'il écrit en septembre 1942 à Marie Dormoy, il la consulte sur un texte, précisément un de ses textes, comme celui que vous voyez ici, destiné à technique et architecture, Perret écrit « Je veux parler de la satisfaction dans ce slogan. L'architecte est celui qui satisfait au particulier par le général. » Je veux parler de la satisfaction à donner au particulier par le général et dire que c'est là ce qui distingue l'architecte de celui qui n'est que technicien. Je ne dirai pas ingénieur pour ne pas froisser mes amis, les inspecteurs généraux des pais et chaussons. Sympathique contre-paix. Au sein de la Direction générale des Beaux-Arts, dont il prend la tête le 24 juillet 1940, mettant en cause les orientations démocratiques, modernistes de son prédécesseur, Georges Huysmans, qui l'accable de ses sarcasmes d'ailleurs en privé, Hautecoeur crée en décembre de la même année, c'est très important dans l'histoire de ce pays, une direction d'architecture en 40, qui regroupe les deux services parallèles des bâtiments civils et des monuments historiques, idée qui avait été formulée auparavant, d'ailleurs, comme beaucoup des idées mises en œuvre à Vichy, par Paul Léon, qui avait été lui aussi chassé de ses responsabilités. Cette mesure, donc la mesure de Hautecoeur, la création de la direction d'architecture, répond aux attentes d'un renforcement de l'action de l'État qui avait été exprimé par la Chambre du Front populaire, notamment à l'initiative d'un député communiste du nom de Joanny Berlioz, d'un Lyonnais du nom de Joanny Berlioz. Le premier directeur de l'architecture sera un administrateur du nom de René Perchet, qui conservera son poste et l'étoffera à la Libération avant de poursuivre une très longue carrière sous les 4e et 5e Républiques. comme beaucoup des acteurs de la reconstruction. Dès 40, un dispositif solide est donc en place autour des administrations centrales à Paris, piloté par un cabinet à Vichy, et de leurs services locaux, par exemple les nouvelles agences départementales d'architecture, nouveautés dans la pratique française et qui sont étrangement copiées sur le modèle de celles que le système allemand avait laissées en Alsace-Lorraine, comme Daniel Vollmann l'a noté il y a quelques années. Le dispositif n'est pas tyrannique, et c'est une des caractéristiques aussi des fonctionnements de Vichy, car ces instances centrales s'appuient sur des conseils multiples auxquels participent des dizaines d'architectes. Il y a par exemple un comité consultatif d'architecture Côte-Cœur créé en 1943, mais il y en a beaucoup. Alors, en parallèle maintenant à la création de la direction de l'architecture, l'administration de Côte-Cœur parvient enfin, on le sait, à instituer, c'est presque la seule chose que l'on sache, à instituer cette organisation nationale de la profession que beaucoup appelaient de leur vœu dans les années 30. La loi, en tout, par exemple, ces deux personnages, la loi du 31 décembre 40 met un terme à une discussion engagée 20 ans plus tôt par la proposition de loi d'un député de la gauche républicaine d'alors, du nom de Félix Liouville, gauche républicaine démocratique, pardon. Liouville voulait réprimer l'usurpation des titres professionnels, et notamment ceux des ingénieurs et architectes. Cette loi, la loi portant sur les ingénieurs, sera adoptée en 1934. Puis, parallèlement, le député Georges-Nicolas Antoine présente un projet en 27 et à nouveau en 28. Entre 33 et 39, Daniel Vollmann et Frédéric Boucher ont recensé pas moins d'une dizaine de projets de loi. Au sein de la Chambre élue en 36, une véritable concurrence, assez cocasse d'ailleurs, s'instaure entre les députés pour déposer des projets de loi dont les objectifs dont les perspectives, les visées sont assez différents. Logiquement, l'architecte Raoul Brandon, dont j'ai déjà parlé, architecte et député, élabore un projet en décembre 36, en parallèle à celui de Paul Grunebaum-Vallin et Charles Pomaret, et les communistes Johanny Berlioz ici et Paul Vaillant-Couturier déposent le leur en janvier 37. C'est d'ailleurs un projet assez original, assez différent, dans un esprit tout à fait différent, qui est l'esprit plutôt du service de l'architecture aux citoyens, puisqu'ils imaginent par exemple de créer un fonds de péréquation alimenté par les droits sur les permis de construire pour permettre aux gens qui n'en ont pas les moyens de payer des architectes. Soutenu par le ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, Jean Zay, un texte définitif, enfin, était prêt à l'été 39. Côte-Cœur était parallèlement, c'est très important, sujet à des pressions insistantes pour créer une corporation des artistes, et l'hypothèse d'un ordre unique artiste et architecte fut soutenue en particulier par Paul Landowski, directeur sculpteur et directeur de l'École des beaux-arts. Mais en définitive, la loi fut très claire dans son principe, architecte seulement. Le texte définitif n'est pas celui de 39, le texte final de 39, c'est un nouveau texte qui est adopté au terme d'une série de discussions assez complexes entre l'été et l'automne 1940. Dans cette discussion, un personnage joue un rôle très important, on va le revoir à nouveau plus tard, c'est le président de la SADG, de la Société des architectes diplômés par le gouvernement, Jacques Duvaux, qui est extrêmement actif dans ses correspondances et dans ses actions. Dès le 11 juillet 40, moins d'un mois après l'armistice, il s'adresse à Pétain pour demander que la profession soit réglementée. Je ne vous montre pas un portrait de Pétain, il ne faut pas en abuser, mais un projet qui porte son nom, sur lequel je reviendrai, c'est le projet de parc Pétain à la Courneuve, étudié dans les années autour de 42. Donc, Duvaux à Pétain. Je cite, « Nous supportons aujourd'hui le poids de nos fautes passées. Rien ne sert de regarder en arrière si ce n'est pour tirer de cet examen amer l'enseignement voulu et l'accepter en toute humilité. Les regrets sont vains. Seul demeure l'immense espoir qu'entre vos mains, Pétain, notre pays de France va renaître à la vie, libre et fidèle aux traditions qui en ont fait la gloire. » C'est avec une foi, c'est la personne la plus puissante de toute la profession d'architecture qui s'adresse à Pétain. C'est avec une foi complète et aveugle dans l'avenir que vous vous préparez à forger que je crois pouvoir me permettre, monsieur le maréchal, de venir vous apporter l'expression profondément émue et respectueuse de la reconnaissance des architectes, l'assurance de leur entier dévouement, Les architectes sont des constructeurs, c'est un peu long, mais je crois que ça nous met dans l'ambiance. Les architectes sont des constructeurs, et c'est à ce titre que je prends la liberté de vous demander de recourir sans réserve à leur service. Depuis des années, nous luttons pour parvenir à un ordre nouveau, un terme assez lourd. Nous avons demandé avec une angoisse que la guerre et ses dévastations augmentaient chaque jour, une réglementation de notre profession qui éviterait le retour des scandales des régions libérées, dont j'ai parlé, la première reconstruction. Nous avons voulu remettre à sa juste place la valeur professionnelle au lieu de la faveur politique et partisane. Restant dans un cadre strictement professionnel, nous aurions désiré que s'établisse une hiérarchie, une discipline, un cadre. Hélas, c'était léser trop d'intérêts particuliers, trop de puissants agents. Je voudrais, monsieur le maréchal, mettre entièrement à votre disposition et la Société des architectes diplômés par le gouvernement et son président. C'est, je crois pouvoir le dire, l'élite de la profession qui vient vous dire qu'elle est prête, aujourd'hui comme hier, à servir. Et par vous, c'est à la grandeur de la France qu'elle travaillera, avec tout l'amour et l'enthousiasme des maîtres et artisans d'autrefois qui ont fait la richesse artistique de notre France. » Fin de citation. Duvau poursuivra son action pendant le reste de l'année, alors que d'autres démarches sont engagées, par exemple la Grande Masse, c'est-à-dire, comme vous le savez, l'Association des étudiants de l'École des Beaux-Arts, ou à titre individuel par deux architectes qui sont repliés en zone sud, Ali Thur, architecte qui a beaucoup travaillé à la Guadeloupe dans les années 30, et Pierre Figarol, qui font mine de représenter la SADG de la zone libre et s'en verront radiés par la suite par Duvau. Leur proposition, cependant, qui est importante, de ne pas distinguer les responsabilités de l'entrepreneur et de l'architecte, ce qui est un peu à l'encontre de beaucoup de choses qui avaient été dites dans les années 30, sera retenue dans le projet définitif, fondé en fait sur un texte élaboré in extremis par les deux corps des architectes des monuments historiques et des bâtiments civils et palais nationaux, porté par leur directeur de tutelle Hautecoeur. Intéressant. Dans ce dispositif de prise en main par l'État, ce ne sont pas les associations qui, finalement, ont le dernier mot, c'est l'État. Ce sont les grands corps de l'architecture d'État. Quelles sont les grandes lignes de la nouvelle législation ? La profession, très importante, est réservée aux ressortissants français titulaires d'un diplôme et présentant des garanties de moralité. Des mesures temporaires permettent de l'ouvrir aux professionnels ayant payé la patente pendant 5 ans. Enfin, important, un lien est créé avec l'enseignement au travers d'une proposition de créer un comité supérieur d'études architecturales, c'est-à-dire au fond de placer l'enseignement non plus sous la tutelle de l'académie, comme il était jusque-là, mais sous la tutelle de l'ordre. Aussi très important, une réduction drastique du nombre des associations d'architectes est préconisée. Je ne dirais pas qu'elles pullulaient avant, mais elles étaient fort nombreuses. Cette réduction aboutit à la liquidation de la Société des anciens élèves de l'École spéciale, des anciens élèves des arts décoratifs, puisque seuls les beaux-arts donneront désormais le diplôme d'architecte, de l'Assemblée provinciale et de la Société des architectes modernes, par exemple, qu'avait créé Franz Jourdain. À l'exception de la Société académique d'architecture de Lyon, toutes les sociétés provinciales sont dissoutes. Je crois que c'est un aspect dont on n'a pas mesuré l'ampleur, cette espèce de ratissage des associations existantes. Au total, la SADG est la seule association à être confortée, au point d'ailleurs de conduire certains de ses membres à en démissionner, car ils considèrent leur appartenance incompatible avec leur adhésion à l'ordre. C'est le cas, par exemple, de Louis Bonnier, architecte voyer de Paris, qui écrit une très belle lettre à ce propos en janvier 1942. Si la protection du titre est saluée par tous, le fait que les architectes ne se voient pas reconnaître l'exclusivité de la maîtrise d'œuvre est critiqué en juin 1941 par Michel Rouspitz dans les colonnes de l'architecture française. La lacune de la loi est grave, écrit-il. N'importe quel groupement financier et affairiste pourra, comme par le passé, et ici il pense très certainement à la SAGI, cette société immobilière dont l'architecte ingénieur Écli avait construit une grande partie de la ceinture de Paris, donc n'importe quel groupement, pourra monter des opérations immobilières comme celles qui ont déshonoré toute notre province et même le centre de Paris, reconstruire des quartiers entiers et des cités dans les plus beaux paysages et faire la plus vulgaire architecture. Pour Rouspitz, certains intérêts veillaient et ont pesé sur le projet de Hautecoeur. Il conclut, l'architecture française continuera à être faite par n'importe qui. Le principal dans cette affaire sera de ne pas avoir la naïveté de se baptiser architecte. Cette précaution prise, on restera libre en France, dans les dires, de démoraliser et voire même de faire des écroulements, puisque la profession d'ingénieur n'est pas réglementée et celle d'entrepreneur est entièrement libre. Fin de citation. L'ordre se met sur pied, les effectifs ne tardent pas à se préciser au terme de la campagne d'inscription initiale et se monteront en mai 43 à environ 6 000. Comment est-ce que tout cela fonctionne ? Un conseil supérieur est institué, formé de 12 membres, flanqué par des conseils régionaux créés dans 21 circonscriptions. Vous voyez que manque à l'appel l'Alsace et la Moselle, qui ne sont pas, qui ne figurent pas sur la carte. En fait, ces circonscriptions correspondent au découpage des cours d'appel, si je ne me trompe, plus qu'à celui des diocèses. Les membres du Conseil supérieur sont désignés le 9 mars 41 par l'administration, sans élection, puisque l'ordre n'a pas encore constitué vraiment ses tableaux. Il n'y a pas de base électorale, un problème de l'œuf et de la poule. C'est ce conseil qui va constituer l'ordre, et notamment qui va devoir statuer sur les candidatures, mais il n'est pas lui-même constitué de manière démocratique, il est nommé. La première séance a lieu le 28 mars 41. Le contingent principal, je l'analyse de manière très rapide, est celui des représentants des organisations professionnelles. La SADG, qui avait été en pointe pour la création de l'ordre avec Jacques Duvaux, la Société provinciale des architectes avec Marcel Génermont de Moulins, la Confédération des sociétés françaises d'architectes avec Guillard, la Société centrale des architectes avec Charles Vallon. Des figures incontestables de l'architecture moderne s'y ajoutent, Tony Garnier, qui semble être complètement hors-jeu dans ces dispositifs, et Auguste Perret, ainsi que trois figures engagées dans les débuts et l'essor de l'urbanisme, Henri Prost, que flanquent son ancien adjoint du Maroc, Joseph Marast, André Bérard et Pierre Remory, qui travaillent sur le plan de Paris. Autres anciens marocains, comme Prost et Marast, Paul Tournon, auteur de l'église du Sacré-Cœur à Casablanca et d'une église à Rabat, est le seul professeur de l'école des Beaux-Arts. La fonction de président revient à Prost, que vous voyez ici, mais dès lors qu'il est totalement, qu'il est la plupart du temps retenu à Istanbul, il élabore le plan d'Istanbul depuis la fin des années 30, il est remplacé par Guillard, lui-même remplacé après son décès par Paquet, qui est une figure importante des monuments historiques. Alors, comment déterminer l'orientation dominante de ce conseil en matière doctrinale ? Ce n'est pas un conseil neutre. J'ai indiqué le poids des associations, des sociétés, mais par ailleurs, il faut noter la présence de Garnier et de Perret. Et il est intéressant de voir la place que leur donne, par exemple, Siegfried Gideon, le critique et historien suisse, dans son premier livre, en 1928, « Bauen in Frankreich », Perret, Garnier, par ailleurs Le Corbusier, les grandes figures du moderne. Donc il y a des modernes incontestables, et il y a par ailleurs un groupe qui est celui des urbanistes, très important en temps de reconstruction, un groupe en vérité innovant et assez reconnu mondialement. Le trio donc, constitué par Prost, Marast, Tournon, en plus illustre l'héritage de la politique conduite par Lyautey au Maroc. Lyautey, on le sait sans doute, est une figure tutélaire des urbanistes français, l'homme d'État qui a compris l'urbanisme, et c'est aussi une figure tutélaire de la droite française et de Vichy, qui s'en réclame. Donc, ce n'est pas un hasard s'il y a une filière lyautéenne dans ce conseil. Face à ces architectes engagés du côté de l'architecture, du côté de l'urbanisme, dans une certaine modernisation du discours, les notables et les hommes d'appareil pèsent assez lourd. Chaque membre se voit affecter un secteur d'activité, et je ne commenterai pas ça dans le détail, par exemple, Perret est chargé de la trésorerie, Marast est chargé des étrangers, Duvaux est chargé de 10 choses à la fois. Les étrangers, donc, que supervise Marast, font l'objet d'une procédure particulière. Ils sont inscrits sur liste spéciale avec l'accord de l'État. Donc, c'est l'État qui admet les étrangers et ne peuvent porter le titre d'architecte à condition d'y adjoindre leur nationalité. Donc leur titre, c'est architecte roumain ou architecte suisse, beaucoup suisse. Frédéric Boucher et Daniel Vollmann ont recensé dans le journal officiel 86 autorisations délivrées en 1942 et 1943. Sur cette liste, on trouve le Belge André Hermand, dont je parlerai tout à l'heure, mais aussi Jean Tchoumi, architecte suisse. Quant aux membres, très importants aussi, des loges maçonniques et des partis interdits, notamment du Parti communiste, ils ne semblent pas avoir fait l'objet de persécution systématique. Il y a aussi d'autres interprétations de la loi, parfois un peu sévères, des règlements de comptes locaux. Perret écrit ainsi toujours à Marie Dormoy en septembre 42. Je cite « J'ai passé ma journée à étudier 6 dossiers d'appel de candidats à l'ordre refusés par les conseils régionaux, refus basés sur des examens assez légèrement faits. Je vais conclure à l'inscription de ces 6 pauvres bougres. Il y en a un qu'on refuse parce qu'il se saoule. Je ne trouve pas ce motif suffisant. Ces Q auraient refusé Verlaine. » Fin de citation. Un des axes de l'action de l'ordre est le soutien apporté aux prisonniers. Prisonnier libéré, Emmanuel-Georges Briot est engagé dans ce programme auquel participe Henri Bernard pour ce qui est des étudiants. J'en parlerai la semaine prochaine. Les architectes parviennent parfois à aménager les camps où ils sont détenus, comme le montre le cas de Guillaume Gillet, qui décore, vous le voyez ici, une chapelle dans l'Oflag de Soest, en Westphalie. À ce que m'a rapporté Michel Marot, Gillet, interrogé par des gens qui lui disaient « Mais enfin, vous n'avez pas cherché à vous évader », répondit après la guerre « Je n'avais pas le temps, j'avais trop à faire ». Landowski, directeur de l'École des Beaux-Arts, ne ménage pas ses efforts pour obtenir, à défaut de leur libération, des conditions de détention permettant aux architectes et aux élèves de travailler. Il note en février 1941 qu'il se rend chez Scapini, vous voyez ici, pour l'organisation du travail des architectes dans les camps. Scapini est chef du service diplomatique des prisonniers de guerre, avec un des bureaux à Berlin, et le rend ambassadeur. Et Landowski écrit « Les gens du 52, vous savez désormais ce que c'est que le 52, 52 Champs-Élysées, la propagande à Staffel, nous aide bien. Scapini, d'ailleurs, ne manque pas d'une certaine allure, jugez-en. » C'est par l'intermédiaire de Scapini que circulent, dans un sens, les livres et les revues envoyés en Allemagne, les camps deviennent vraiment des lieux de formation, et dans l'autre sens, des projets rendus pour les concours, notamment ceux de l'École des Beaux-Arts. L'Ordre collecte aussi des fonds pour venir en aide aux prisonniers, beaucoup d'institutions s'organisent pour les faire travailler, les monuments historiques, les bâtiments civils, l'Institut d'urbanisme. Le commissariat à la reconstruction immobilière, par exemple, va lancer un concours réservé aux architectes prisonniers. J'en parlerai aussi. La Société centrale et la Société des diplômés financent la création d'une petite bibliothèque dans chaque camp. Et l'Ordre collecte pour acheter du calque, du papier, des crayons, pour, je cite, que nos jeunes camarades ne soient pas retardés dans leurs efforts par des questions matérielles. Il y a aussi d'autres concours dans tous les sens. Par exemple, la revue Urbaniste fait l'écho d'un concours organisé par le Touring Club de France pour les prisonniers sur le thème « L'urbanisme ou la vie heureuse ». Quant à la présence des absents dans Paris, elle aurait dû être assurée, c'est ce que vous voyez ici, par une maison du prisonnier située place Clichy, étudiée par Jean-Charles Moreux, qui aurait abrité l'ambassade Scapini et le journal Toute la France. Ce qui est assez amusant, c'est l'imagination de Moreux lorsqu'il dessine le... Est-ce que ce truc marche ? Oui, lorsqu'il dessine ici l'inscription qui figure sur la façade, au-dessus de la porte d'entrée, il écrit en bas « Utiliser les caractères de Piranesi ». Il pense aux prisons de Piranesi comme une inspiration typographique. Alors, d'autres sympathiques personnages. Inutile de chercher des Juifs au sein du Conseil supérieur ou des conseils régionaux de l'Ordre. Une des premières mesures du gouvernement de Vichy a été, en effet, de leur interdire dès l'été 41 toutes les instances représentatives des professions libérales. D'emblée, l'Ordre est institué avec la visée de circonscrire les effectifs professionnels, limités, on l'a vu, aux diplômés et aux Français. Sa création, et je dis les choses avec prudence, il est difficile de faire des comparaisons rigoureuses, n'a pas été préparée, j'en ai le sentiment, par une campagne de haine xénophobe aussi violente que celles qui sont lancées contre les médecins ou les avocats juifs étrangers. Je vous renvoie notamment au très bel ouvrage de Robert Badinter, publié en 1997, « Un antisémitisme ordinaire », on pourrait appliquer cette épithète aussi, cet adjectif aussi à l'architecture, « Vichy et les avocats juifs ». Badinter montre que les mesures de 40 et celles qui suivent prolongent un ostracisme discret mais objectif et répondent aux discours les plus violents des avocats antisémites. C'est d'ailleurs l'un d'eux, Xavier Vallin, vous voyez à gauche, qui est le premier commissaire aux questions juives, lui qui avait écrit cette phrase programmatique selon laquelle, en France, je cite, « les juifs sont supportables à dose homéopathique ». Les discours xénophobes les plus souvent à accent antisémite n'avaient pas manqué d'éclore, je ne veux pas les cacher. Par exemple, dans les colonnes de la revue Art National, créée par l'architecte Maurice Lachette de Polignac pour la défense de l'art français du bâtiment, qui était l'émanation de l'Association des architectes anciens combattants, qui mena notamment une campagne contre les opérations parisiennes de la Sagie, auxquelles faisait référence Rouspitz dans son texte, et leur concepteur Louis Clovis Écli. Tout le monde en parle. Pourquoi ? Parce que Écli, c'est à ce jour l'architecte parisien le plus prolifique. Personne n'a jamais construit 20 000 logements et personne ne construira jamais 20 000 logements à Paris. C'est ce qu'Écli a réussi à faire avec la Sagie sur la ceinture des fortifications. Ces diatribes dont Jean-Claude Vigato a été le premier à rendre compte il y a longtemps sont particulièrement violentes quand elles émanent du critique Camille Mauclerc, qui avait dénoncé en 1930 le complot des métèques contre l'art français et publié en 1933 « L'architecture va-t-elle mourir ?», qui était une violente dénonciation des modernes comme étant des agents bolcheviques et éventuellement Bosch, pour faire bonne mesure. Je cite simplement un paragraphe de Mauclerc, et il ne faut pas se gâter, Louis. Mauclerc répète à l'envi, je cite, « La liaison étroite entre le bolchevisme, le fauvisme plastique, le surréalisme littéraire et l'incontestable effet d'un plan de propagande dont on retrouve souvent les mêmes agents, habiles à tirer les ficelles du snobisme et de la spéculation dans la presse, la librairie, les galeries et le monde de la bâtisse. » Au fond, les modernes radicaux sont pour lui des apatrides, car une architecture est nationale ou n'est que de la bâtisse posée sur un sol sans faire corps avec lui, sans répondre à l'appel séculaire de son âme. Pour lui, le ciment est un volapük, je cite à nouveau, je ne dis même pas un espéranto de sonorité plus douce, je dis volapük, parce que ce mot barbare me semble mieux correspondre aux abominations Le Corbusier et soviétique qu'on s'acharne à nous infliger. Mauclerc s'excusera par la suite auprès de Le Corbusier de sa véhémence, dans une lettre assez drôle, alors à mon avis que le Front populaire il semble porter d'éventuelles ouvertures. Lorsque Landowski lui rend visite en janvier 1941, il note dans son journal de Mauclerc comme il est tendu, violent, absurdement antisémite. Il n'est pas le seul. Dans un entretien qu'il m'avait donné en 1985, il y a donc plus de 30 ans, Julius Posner, je vous rappelle qu'il était secrétaire de rédaction de l'architecture d'aujourd'hui, citait de mémoire, je pense qu'il n'en avait pas le texte, une lettre envoyée par Laprade au directeur de l'architecture d'aujourd'hui, André Bloch, je cite, « Vous devriez écarter de votre revue tous les collaborateurs qui ont des noms comme Ginsberg ou Lubetkin. En ce qui concerne M. Posner, qui écrit depuis plusieurs années sous le nom de Lepage, et qui doit s'estimer heureux d'être publié, il ne doit pas avoir l'impudence d'écrire sur l'architecture française à laquelle il ne peut rien comprendre. Si vous ne suivez pas mon conseil, l'architecture d'aujourd'hui sera considérée comme un organe de cette conspiration judéo-soviéto-bosch qui s'efforce de ruiner l'artisanat français en faveur de l'Allemagne. » Un autre xénophobe et antisémite véhément est Gustav Umdenstock, professeur à l'École polytechnique, puis à l'École des beaux-arts. Il mène campagne, alors Umdenstock est notamment l'auteur de ce traité des cours professionnels à l'École polytechnique, où l'on voit comment il assimile l'angle droit au Bosch et la vie, la courbe et le cercle au poilu français. Umdenstock, Landowski note dans son journal en septembre 40 qu'un de ses collègues vient de rencontrer Umdenstock, rue Bonaparte, qui racontait qu'il était chargé d'une enquête sur moi pour vérifier si j'étais juif, si j'étais franc-maçon. Et il ajoutait que j'ai pris 100 000 francs dans la caisse de l'école et qu'à cause de cela, on ne pouvait plus payer les modèles. Umdenstock disait, rapporte Landowski, nous allons faire sauter tous ces juifs, Paul Léon et Pontremoli et Hautecoeur et Landowski. Sans attendre que les Allemands l'exigent. Alors, passons aux choses sérieuses. Le gouvernement de Pétain a en effet promulgué le 3 octobre 1940 un premier statut des juifs. Et juifs, quiconque a au moins trois grands-parents d'origine juive, interdiction est faite, leur est faite d'être fonctionnaire ou enseignant. Pétain y tient personnellement aux enseignants et ajoute cette mention de sa main avec son crayon sur le projet. Au total, pendant les 14 mois du régime, 198 lois ou mesures antisémites seront édictées par le régime. L'accusation contre Landowski reste d'ailleurs d'actualité jusqu'en 1941. En mai, il se propose d'aller voir Emsen et Schnur au 52 des Champs-Élysées. Je cite « Dès que réponse aura été donnée à propos de mon arianisme, quelle sottise, on devrait avoir le courage de tout supprimer plutôt que de se prêter à cette comédie sinistre. C'est la grosse faute de Pétain de nous mettre dans les alternatives. » Il note après cette rencontre « Ils me disent avoir reçu des lettres, les unes anonymes, les autres signées. » Affirmant que j'étais juif, conversation courtoise au cours de laquelle ils me disent que Hautecoeur est aussi l'objet de dénonciations analogues. Je leur dis qu'en France, pour la grande majorité, la question juive n'existe pas. Ils m'affirment qu'ils ne veulent pas la régler inhumainement, mais même dans nos écoles, ils voudraient un enseignement à part, pas autre chose. Je leur dis qu'à l'école, ils sont tellement peu nombreux qu'il vaut bien mieux laisser les choses en état. Sans doute ce qui s'est passé. Tout de même, quelle sottise, quand on réfléchit en sortant, on a l'impression qu'on a conversé avec des demi-fous et qu'on a déraillé avec eux. Le 18 octobre 40, Landowski, je continue à m'appuyer sur son journal, déclare avoir reçu un avis lui demandant d'établir d'urgence la liste des professeurs israélites. Il se résoudra à exclure Pierre Marcel, professeur d'histoire générale depuis 1912, et Eugène Bloch, professeur de physique et de chimie. Pontremoli sera également écarté. Dans la profession, parallèlement, les rumeurs ne cessent de courir. Ainsi, une campagne vise Paul Abraham et Eugène Baudouin, tous deux mis en demeure de démontrer leur arianité. Dans le cas du premier, la consonance de son nom de famille suffit à expliquer la rumeur. Et ici, une chose assez drôle, par prudence, Abraham ajoute l'innocent Le Breton sur les listes officielles, comme celle des experts auprès des tribunaux, ce que vous voyez en haut à droite. Dans le cas du second, Baudouin, dont l'influence était devenue tout à fait considérable, il y a fort à parier que la première motivation de la rumeur était simplement l'envie. Tous les deux interviendront auprès de Duvaux pour que la SADG rejette ces dénonciations sans fondement. En comparaison des campagnes organisées contre les banquiers, les commerçants, les avocats, les médecins, les journalistes ou les gens de spectacle, dont l'exposition « Le Juif et la France » organisée en septembre 1941 et l'Expression, les architectes restent plutôt dans l'ombre. Mais le second statut des Juifs promulgué le 2 juin 1941, qui réduit à deux le nombre de grands-parents suffisants pour être considérés comme Juifs, je simplifie, ce statut instaure en outre un numerus clausus dans les professions libérales et à l'université. Un décret en Conseil d'État du 24 septembre 1941 porte sur les architectes, après ceux qui portent sur les avocats, les officiers ministériels, les médecins, etc. Un numerus clausus de 2% des effectifs arien est appliqué à chacune des 21 circonscriptions qu'on a vues tout à l'heure, les Juifs en surnombre devant être, selon la lettre du texte, éliminés, pas encore physiquement. La formule de demande d'inscription comprend la question numéro 6, « Êtes-vous arien ?» entre parenthèses, loi du 3 octobre 40, à laquelle le candidat répond en cochant la case « oui ou non ». À l'examen sommaire d'un ensemble de formulaires effectué par un de mes amis il y a quelques années, il apparaissait que très peu de candidats s'abstenaient de répondre et qu'il y avait très peu de réponses négatives. Mais il est sans doute vrai que ces formulaires correspondaient à des candidats admis et que les dossiers des refusés pourraient avoir été jetés ou perdus. L'examen exhaustif de tous ces formulaires, qui m'intéresserait beaucoup, supposerait un accès à tous les dossiers d'archives de l'ordre. Peut-être cela va-t-il être possible. Quelques sondages font apparaître des documents révélateurs et parfois intrigants. Je vous en montre deux paires. Ainsi, sur la demande de Moïse-Émile Saba, architecte des PLG à Faverges, en Haute-Savoie, à gauche, la réponse négative à la question 6, êtes-vous arien ? Non, est soulignée en rouge, comme si son premier prénom, Moïse, laissait planer un doute. Albert Candet, à droite, architecte des PLG dans le Rhône, évidemment, les deux premières syllabes de son nom sont suspectes, mais c'est un nom savoyard, biffe la question. Il est admis quand même. Et encore deux autres, Salomon Louria, à gauche, qui répond israélite à la question numéro 6, est lui aussi admis, mais le 30 décembre 1944, après la libération, alors que sa demande est datée du 2 janvier 1942. Donc là, c'est un cas clair d'exclusion. Que lui est-il arrivé entre-temps ? Quant à Roland Bechmann, le cousin de mon père, pardon, que l'on voit à droite, il biffe la question. Vous voyez que la question est rayée, ici, sur son formulaire. La question 6 est rayée, mais il dépose sa demande le 16 février 1945, après avoir participé au maquis du Vercors. Il avait passé son diplôme assez tard. Le fait que la création de l'ordre soit récente, soit fraîche, aboutit à un télescopage entre la constitution des tableaux et l'application du numerus clausus. En décembre 1941, le Conseil supérieur décide de surseoir à l'admission d'architectes juifs, car le quota ne peut être calculé. Et le 30 mai 42, Paul Tournon, membre du Conseil, inverse en quelque sorte la proposition et demande que les conseils établissent la liste des Juifs à l'admission desquels ils sont favorables pour transmission aux préfets qui eux-mêmes détermineront le choix des admis. Ensuite, pour les admis, les choses ne sont pas simples, car il y a une sorte de compartimentage géographique. Les Juifs admis à exercer dans une circonscription ne peuvent pas exercer ailleurs. Alors, ostracisé professionnellement de la façon la plus légale qui soit par les architectes, les Juifs, donc c'est l'application des lois raciales aux architectes, maintenant parlons de l'application par les architectes, les Juifs, en général, rencontrent dans la profession architecturale la rencontre dans un de ses rôles les plus saumâtres, qui est celui de l'évaluation des biens spoliés. Landowski, toujours clairvoyant, avait vu les choses arriver. Le 18 octobre, il note « Pour revenir à la question israélite, M. qu'il est, me disait qu'après le recensement des personnes, il y aura un inventaire des biens. En somme, c'est toujours l'histoire des Templiers ou des congrégations, ça n'est pas très nouveau, ça non plus. » Le commissariat général aux affaires juives créé le 29 mars 1941, donc d'abord Valla, puis Darquier, mettra en œuvre cette politique avec le décret-loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs. Les archives du commissariat général et la caisse des dépôts et consignations conservent les traces dans des milliers, des dizaines de milliers de dossiers. Alors, évidemment, il y a eu énormément d'enquêtes sur la spoliation, notamment pour ce qui est des entreprises, pour ce qui est de l'arianisation économique et pour ce qui est des œuvres d'art, qu'ont rassemblé le rapport de Matteoli rédigé en 2000 par une commission nommée par le Premier ministre, Lionel Jospin, si je m'abuse, à l'époque. Pourtant, les manifestations de la spoliation dans le domaine immobilier ont été largement ignorées. Seule exception, le très remarquable travail d'Isabelle Bacouche et Sarah Gensburger sur l'îlot insalubre numéro 16 à Paris, et notamment sur la réaffectation des appartements vacants dont les propriétaires ou les locataires ont été déportés. Au total, selon d'autres auteurs, Azema et Vieviorka, 70 000 familles vont participer à l'appropriation de ces biens, ce qui est considérable. De son côté, Laurent Joly, qui a écrit un très important ouvrage sur Vichy dans la solution finale, l'histoire du commissariat de Valla et d'Arquier, a décrit le processus. Alors, que se passe-t-il? Comment ça se passe? Pour simplifier, la désignation d'un administrateur provisoire étroitement contrôlé par le commissariat général est le point de départ. Puis l'administrateur désigne un expert chargé d'évaluer le bien. Puis des propositions d'achat sont reçues et la vente est validée après consultation du commissariat général. Enfin, la somme, qui est donc une somme volée, est versée à la Caisse des dépôts ou aux autorités allemandes lorsque le propriétaire est allemand ou polonais. La commission Matteoli estimera à 50 000 les procédures d'arianisation conduites dans les deux zones, donc en un peu moins de 3 ans. Dans le domaine immobilier, la vente des biens suppose donc leur évaluation, et qui évalue? Des experts, les architectes. Il y a d'autres professions, les notaires sont extrêmement engagés dans cette affaire, à 100%. Il y avait très peu de notaires juifs d'ailleurs. Du côté des architectes, Daniel Volman a estimé environ à 5% des effectifs ceux qui participent aux évaluations, à partir du reflet qu'elle envoie dans les procédures d'épuration qui seront menées après 1945. Bon, on trouve des informations fragmentaires sur toute une série dans toute une série d'études sur la spoliation ou la préparation de l'Holocauste par Vichy. Juste un exemple, dans le Vaucluse, qui a été étudié par deux chercheurs américains qui s'appellent Isaac Levendel et Bernard Weiss. C'est le représentant local du Conseil départemental de l'Ordre qui filtre les candidatures d'experts possibles et qui élimine, je cite, « ceux qui ne sont pas fiables du point de vue national ». En gros, le fromage est réservé aux amis. Les instances de l'ordre, contrairement à ce qu'elles feront mine d'avoir fait, sont parfaitement au courant de ces opérations, et notamment des cas où les architectes, non contents d'être évaluateurs, deviennent administrateurs, ce qui arrive parfois. Dans l'évaluation elle-même, elles sont tout à fait impliquées. L'ordre ne désigne pas les experts, mais il les guide. Il les guide, il les encadre par délégation du commissariat. Ce sont deux notes par lesquelles l'ordre transmet une méthode d'évaluation, une méthode de présentation des évaluations, une méthode d'expertise des biens juifs le 7 octobre 1941. Et le centre d'information de la SADG de M. Duvaux organise, je cite, les soumissions pour les ventes de biens juifs. Donc les architectes, non seulement évaluent, mais ils accueillent aussi par la SADG les demandes d'achat. Le centre d'information de la SADG envoie aussi régulièrement aux architectes les résultats des ventes de biens israélites pour leur permettre d'ajuster leurs évaluations. Un enjeu décisif en ces temps où la base économique de l'exercice professionnel s'est asséchée est celui des rémunérations. Dans le cas de Paris, le barème fixé par le tribunal de première instance du département de la Seine fixe les honoraires à 3% sur les premiers 500 000 francs, puis 2%, puis 1% au-dessus d'un million. Le travail est très strictement défini par les directives du commissariat général jusqu'au nombre d'exemplaires des dossiers qu'il faut transmettre. Alors, très difficile d'avoir de mettre le nez vraiment dans ces procédures. Mais, par miracle, il y a aux archives de la Cité de l'architecture et du patrimoine un fonds très bien préservé, celui de Charles-Henri Besnard, architecte, ou Bénard, je ne sais pas comment il voulait que l'on prononce son nom, architecte à Paris, auteur de l'église Saint-Christophe de Javel, disciple par ailleurs d'Anatole de Baudot, architecte en chef des monuments historiques, critique au journal des débats, donc quelqu'un qui est un notable de l'architecture, qui a réalisé beaucoup de chantiers de restauration et des chantiers publics à Paris, par exemple les laboratoires de chimie du Collège de France, au-dessus de notre tête. Il figure en bonne partie sur la liste des 75 spécialistes et techniciens qui sont recommandés par le tribunal de première instance et la Cour d'appel de Paris. Les correspondances conservées mettent en évidence le processus de désignation. C'est le commissariat général qui met en liaison les administrateurs provisoires, donc ceux qui ont été nommés, ceux qui vont gérer les biens spoliés. Chaque administrateur établit pour un immeuble chaque administrateur nomme un architecte qui établit pour chaque immeuble ou appartement un dossier méthodique comprenant un plan masse et des plans de niveau, une analyse de l'état des locaux et un bilan des charges et des recettes locatives et enfin une estimation du bien. Les archives de Besnard, voilà, ici, dans les dossiers de Besnard sont le gros dossier dans lequel il a rangé tout ça, un dessin avec un dessin d'un appartement à droite. Dans un cas non identifié, on trouve même dans les archives de Besnard les pages d'un carnet qui contiennent l'inventaire du mobilier et du linge de maison d'un appartement. Un bureau, trois fauteuils, deux torchons, quatre draps, ce qui dénote une conception pour le moins extensive de l'estimation immobilière. L'analyse des charges et des recettes conduit à une correspondance avec les gérants d'immeubles. Donc c'est un travail mené minutieusement, rigoureusement, je dirais, tandis que l'évaluation résulte notamment des avis sollicités auprès des architectes installés dans le quartier. Combien vaut le mètre carré dans cette rue? Combien vaut le mètre carré dans l'îlot d'à côté? Besnard reçoit aussi des demandes d'acheteurs potentiels, tel ce docteur Adrien Chemin, directeur de l'Institut municipal et des laboratoires départementaux d'électroradiologie. Vous le voyez, il cherche à acquérir un immeuble jusqu'à 1 200 000. Alors, quelques dossiers, rapidement. Je ne peux pas tous les passer en revue. Il y a des appartements, il y a des immeubles. Certains d'entre eux sont particulièrement intéressants, je dirais. Voici le premier. Donc, l'immeuble Janowski, rue des Frambourgeois, dans le Marais, 35 rue des Frambourgeois, l'ancien hôtel de Coulanges, dans lequel, selon la légende, peut-être l'histoire, Madame de Sévigné avait passé une partie de son enfance. Donc vous voyez ici l'évaluation, la description des lieux particulièrement minutieuse, notamment le travail qui est fait sur le plan de masse à droite. Depuis, la ville de Paris finira par acquérir cet hôtel, je ne sais après quels intermédiaires, et elle y logera depuis, en 1978, la Maison de l'Europe. Un autre cas, c'est celui de l'immeuble Colm, ou Cône, sans doute une coquille, 8 Cité des Fleurs à Paris. Vous voyez à gauche le plan d'ensemble qui est fait par Besnard, à droite la première page de son évaluation, et au milieu le bordereau d'envoi des honoraires. Un cas tout à fait emblématique, alors qui est évidemment fascinant, c'est celui de l'immeuble Eugène Lévy, 35 rue Martre à Clichy, que Besnard évalue en 43. Les locaux sont loués depuis 1932 à la société Montsavon, dont le propriétaire est Eugène Schuller, industriel des cosmétiques. Financeur de la cagoule avant la guerre, Il est, pendant l'occupation, le mécène du mouvement social révolutionnaire de l'oncle, avant de devenir un des dirigeants du Rassemblement national populaire de Marcel Déas. C'est aussi un authentique agent de l'ambassade allemande. Dans ce cas, Schuller se bat pour obtenir le bien, pour piquer le bien de son propriétaire. Il prend soin de procéder à sa propre évaluation confiée à un architecte, Louis-Jacques Lambert. L'administrateur provisoire, Sylvan, se fait l'interprète du commissariat général pour que l'affaire soit conduite avec célérité. Et en définitive, une promesse de vente est signée au bénéfice de Schuller, qui semble très pressé de prendre possession du bien. Annie Lacroix-Rie l'a décrit dans son livre « Les élites françaises entre 40 et 44 » de la collaboration avec l'Allemagne à l'Alliance américaine comme, je cite, « un arianisateur économique systématique ». En tout cas, il dépose une promesse de vente, il acquiert le bien, et c'est sur ce terrain, un peu élargi par la suite, que le siège de L'Oréal sera établi. Donc, je pense que si l'on trouvait des dossiers, beaucoup de dossiers de fonds comme celui de Besnard, on trouverait énormément de clés au destin de certains endroits de Paris. Dès la fin 1944, le rôle zélé des architectes pose problème aux instances professionnelles et les litiges se multiplient, car beaucoup refusent de rendre les honoraires perçus dans le cadre de leur mission confiée par le commissariat général. Duvaux, toujours lui, voici la médaille commémorative qui a été sculptée par l'excellent Sarah Bézol. Duvaux revient sur la question dans le bulletin de l'ordre en janvier 1946. Je cite Duvaux. Un grand nombre d'architectes ont été commis pour effectuer des expertises de biens juifs, expertises qu'ils n'ont d'ailleurs pas cherchées. Il n'est pas juste de les assimiler à des profiteurs ou à des marchands de biens. Dans la plupart des cas, au contraire, ils ont fait leurs expertises en toute conscience et précisément dans le but de faire échec aux manœuvres de spoliation. Il en appelle donc au Conseil supérieur pour coordonner la défense éventuelle des architectes recherchés de ce fait. Ce faisant, Duvaux semble assumer sans l'avouer, en protégeant tout le monde, la responsabilité, si vous voulez, par défaut, qui avait été celle de l'Ordre et de la SADG dans cette campagne. Alors, dernier chapitre, la scène des revues. La scène des revues est sans doute la plus révélatrice des relations entre les institutions, entre les associations d'architectes, les sociétés, l'État et l'architecture dans sa dimension théorique et pratique. La baisse de l'activité du bâtiment, et donc celle des recettes publicitaires, et le rationnement du papier aboutissent très rapidement à une crise de la presse architecturale. Dès octobre 1939, la Construction moderne, qui est l'organe de la Société centrale des architectes, suspend sa parution. En décembre, elle renaîtra sous des formes un peu larvaires par la suite. En décembre, après 1945, en décembre de la même année, l'architecture, organe de la SADG, interrompt définitivement sa parution. Et les revues d'entreprise connaissent le même sort. Par exemple, regardez dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, et on voit que la technique des travaux, très bonne revue publiée par les pieux Franqui, s'interrompt avec le numéro d'avril 40, comme d'ailleurs l'architecture d'aujourd'hui. Dans la France occupée, les revues sont publiées sous le contrôle du département Wirtschaftspressezensur de la Propaganda Abteilung et jusqu'à sa dissolution sous celui du département, ce qui veut dire la censure de la presse économique, et jusqu'à sa dissolution sous celui du département Zeitschriften REF, référence des périodiques, par la Propaganda Staffel, qui se font communiquer chaque numéro sitôt après impression. Pas de censure préalable, une censure a posteriori, c'est-à-dire une autocensure. Deux revues voient le jour en 40 et 41, qui vont constituer deux pôles opposés du discours architectural jusqu'à 45 pratiquement. La première est l'architecture française, que l'on voit ici, dont le premier numéro est publié en novembre 40 sous l'autorité d'André Hilt, Grand Prix de Rome en 1934. Un premier projet avait été élaboré peu après l'armistice, vous le voyez à gauche, sous le titre « La nouvelle revue de l'architecture, organe de la reconstruction française », et qui va se contracter rapidement en « La nouvelle revue de l'architecture française », puis « L'architecture française » tout simplement. Alors que la parution de l'architecture d'aujourd'hui, vous voyez à droite, principale plateforme d'une modernité qui était, dans ses pages, assez modérée et pluraliste, l'architecture d'aujourd'hui suspend sa parution, donc, comme vous le voyez avec ce numéro du printemps 40, mars-avril 40, son comité de rédaction émet une protestation contre l'usurpation apparente de l'image de la revue par cette nouvelle revue de l'architecture. organe de la reconstruction française. Protestation qui était censée être adressée aux membres du comité de patronage, aux abonnés français, aux libraires, annonceurs, aux sociétés d'architectes. Elle est signée par Bardet, Herman, Laprade, Pingusson, Sabatou et Sébille. Bardet et Laprade qui par la suite écriront pour l'architecture française, Herman qui par la suite écrira dans Technique Architecture. Les circonstances actuelles rendent particulièrement difficile, écrivent-ils, la parution de l'architecture d'aujourd'hui. Les membres du comité de rédaction croient devoir prendre l'initiative de mettre en garde toutes les personnes qui ont bien voulu suivre et soutenir pendant ces 10 dernières années l'effort de la revue. Ils tiennent à leur préciser que, contrairement à certaines apparences typographiques, puisque certains numéros de l'architecture d'aujourd'hui au milieu des années 30 avaient une composition graphique très proche de celle de cette couverture, ils tiennent à le préciser qu'une nouvelle revue d'architecture qui serait sur le point de paraître n'a aucun rapport avec l'architecture d'aujourd'hui. Message dactylographié, rien ne permet de penser qu'il a été envoyé. Une feuille datée d'octobre 40, vous la voyez à gauche, présente la nouvelle revue de l'architecture comme revue authentiquement française, en capitale, certificat numéro H373, et précise, cette revue ne sera pas seulement technique, elle vous apportera aussi les comptes rendus des réunions et des assemblées préparatoires et constitutives de la Chambre corporative des architectes, qui ne s'appelle pas encore l'Ordre. Par elle, vous serez donc instruit de toutes les grandes décisions prises par cet organisme, le futur Ordre, dont le but initial est d'assainir notre corporation. La revue, propriété du publicitaire Paul-Marie Durand-Soufflant, originellement ingénieur agricole et dont le lien est très étroit avec le commissariat technique à la reconstruction immobilière, s'inscrit donc pleinement dans la révolution nationale. Je cite le premier éditorial de Hilt, illustré par ce frontispice que je vous avais montré. Je cite, « Un pays dont les qualités morales et intellectuelles vont reprendre leur place, dont les leçons de son grand passé sont toujours pour lui une source d'espoir et dont la jeunesse ardente ne pense qu'à lui donner tout ce qu'elle a de meilleur, trouve en lui-même les circonstances favorables de son relèvement, de sa renaissance dans l'ordre nouveau. » Je vous l'avais déjà cité, je crois. La revue entend réunir les efforts de tous les artisans de la beauté qui travailleront à la reconstruction du pays, à la vie triomphante d'un peuple vaincu, vainqueur de lui-même. Et elle ajoute, je le disais, à la devise du régime, travail, famille, patrie, la sienne, sa propre triade, patrie, art, profession. Dans ce numéro, la condamnation des excès individualistes et affairistes de la Troisième République est aussi au centre de l'article de Joseph Marast, urbaniste 40, dans lequel, qui est apparemment nostalgique de Lyautey, dans lequel il appelle de ses voeux la création d'une administration chargée de la reconstruction qui échapperait au contrôle exclusif des ingénieurs. Dont j'ai parlé, je cite Marast, « Il est indispensable que tous ceux qui ont à coopérer à l'œuvre d'urbanisme soient animés de l'esprit d'équipe et comprennent que la grandeur du résultat dépend de leur discipline, de leur soumission au chef. » Présidé par Albert Tournaire, le comité de l'architecture française comprend Bardet, Botcher, Dameron, Desmarais, Laprade, Marast, Perret, Rouspitz et Tournon, mais aussi des compagnons de route, des architectes, le journaliste Léandre Vaillat, et le directeur du musée des arts et traditions populaires, Georges-Henri Rivière. À partir du numéro 28 de février 1943, Rouspitz devient le rédacteur en chef d'une revue qu'il gauchit un peu, modérément. Il affirme qu'elle doit devenir le véhicule d'idées neuves destinées à aider à la création d'une architecture contemporaine, nouvelle étape, dit-il, de notre architecture nationale. Alors, que va être l'architecture française ? Un vecteur des textes officiels. Elle va rendre compte très régulièrement de la reconstruction, du travail des prisonniers. Elle va présenter des articles historiques qui sont, dans l'ensemble, assez sérieux, confiés à Laprade ou à Jean-Charles Moreux. Elle va aussi être le support des éditoriaux très fermes, en tout cas très déterminés rhétoriquement, de Rouspitz contre ce qu'il appelle l'ossaturisme. C'est quand même une critique de Perret qui parraine la revue, et en faveur de ce qu'il appelle le domisme. Le domisme, c'est ce qui serait le pendant dans l'architecture domestique, dans l'habitation, de l'urbanisme. Mais la revue est aussi, il faut le dire, un vecteur des textes officiels des administrations. Et il semble bien que ces administrations aient acheté une partie du tirage et donc soutenu artificiellement la revue à un moment où même les revues à bon marché étaient parfois inaccessibles pour des architectes sans travail. Alors, sur l'autre flanc du discours architectural, technique et architecture se situent dans la continuité de l'architecture d'aujourd'hui, créée en 1930 par l'ingénieur André Bloch, plus tard mutera, morfera en sculpteur. Après l'armistice, Bloch entreprend une sorte d'auto-arianisation par anticipation dans la revue, dont il vend le fonds le 26 décembre 1940 à l'architecte et homme d'affaires Georges Massé. Massé et son équipe reprennent les locaux de la revue à Boulogne, qui avaient été aménagés, vous voyez en haut, par Julius Posner en 1935, les locaux de la revue rue Bartholdi. Vous voyez à droite l'aménagement qui en est fait, c'est une esquisse du fonds d'André Herman, dont vous voyez le portrait en bas. Donc Massé forme une équipe conduite par André Herman, chimiste à l'origine comme Bloch d'ailleurs, formé à l'école spéciale avec Perret et qui avait travaillé avec Rouspitz, et les réseaux sont serrés, au poste de secrétaire général puis de directeur technique. André Voguensky devient secrétaire général de rédaction, secrétaire de rédaction. Il forme une équipe bien différente de celle des officiels de l'architecture française, bien qu'il y ait des recoupements entre leur comité et celui de la revue qui appartenait, l'architecture française, je ne l'ai pas dit, à un journaliste du nom de publiciste du nom de Paul Durand-Soufflant. Voici la première esquisse du comité, des comités dressés par Herman, qui comprend un comité d'orientation présidé par Hautecoeur, avec pas moins que Paul Valéry, André Derain, Aristide Maillol, Charles Despiau, Maurice Denis. Le comité technique ou de rédaction est présidé par Perret. Ici, je vois dans ce document plus l'expression d'un désir, d'une aspiration qu'une véritable politique, bien qu'un brouillon de lettres d'Herman à Valéry subsiste. En avril 1941, Voguensky rapporte à Massé à Vieilleville, l'administrateur, deux entrevues avec un certain Schmitt au 52 des Champs-Élysées, à la propagande d'Achtaffel. François Chalin a rapporté cet épisode dans son livre Un Corbusier, dans sa perspective, en l'inscrivant dans un autre propos. Voguensky parle de la reparution de l'architecture d'aujourd'hui, le titre est encore d'actualité, et s'efforce de souligner les différences qui la séparent de l'architecture française. Il note que M. Schmitt, on ne connaît pas son grade dans la Wehrmacht, semble comprendre ces différences puisque de lui-même, portant notre conversation sur l'architecture française, il déclare que les deux revues lui paraissent totalement différentes et que leur but étant divergent, leur méthode de rédaction ne peuvent être comparées. Donc en clair, c'est avec les Allemands que se discute cette espèce de pluralisme bicéphale des deux revues. Par ailleurs, Schmitt me pose quelques questions sur l'ancien personnel de rédaction de l'architecture d'aujourd'hui et semble attacher une très grande importance au fait que ce personnel est entièrement renouvelé. Euphémisme de la part de Voguensky pour dire que les Juifs en sortent. Schmitt rencontre ensuite dans un deuxième entrevue de ce que son supérieur, le lieutenant Stiegler, lui a dit. Stiegler s'inquiète sur les financements sud-américains de Massé et dit que si toutes les garanties lui sont données, l'autorisation de paraître sera accordée, ce qui sera le cas. Et Schmitt ajoute en post-scriptum ou en post-verbum, selon Voguensky, d'une façon tout à fait secondaire, Schmitt m'a demandé si M. Perret n'a pas de relation d'amitié juive, notamment par l'intermédiaire de Mme Perret. La revue continue à approcher les Allemands pour avoir des informations, par exemple sur l'organisation TOT. Herman demande un rendez-vous à Bremer, le directeur de l'Institut allemand, pour avoir des matériaux sur l'organisation TOT qui sont publiés dans le numéro sur la route. Et il s'adresse à nouveau au même Brenner pour lui demander d'être en contact avec des architectes allemands pour instiller de l'information sur l'Allemagne dans les numéros, ce qui ne se fera pas véritablement. Et Herman envoie des correspondances à des figures importantes, notamment Paul Schulze Naumburg, qui avait été un des tout premiers architectes nazis et qui était une des figures du conservatisme allemand. Perret, par ailleurs, est la véritable caution de la revue, ainsi qu'il avait été celle de la revue de Bloch. Et chaque numéro, en fait, s'ouvre par un ensemble d'aphorismes de Perret qui les soumet épisodiquement dans sa correspondance à l'approbation de Dormoy. Dans le numéro inaugural de septembre-octobre 1941, à gauche, vous voyez à gauche, Herman fixe à la revue un rôle clairement documentaire, et dans laquelle on trouve ce texte de Perret. Herman fixe à la revue un rôle clairement documentaire et s'abstient, contrairement à Rouspitz, de toute rhétorique péténoïde, je dirais, même si c'est en face d'une introduction du commissaire général à l'éducation générale et au sport que ce texte, ce premier manifeste de Perret, est publié. Perret, qui était un professionnel des manifestes donnant sa caution en revue. À droite, je montre celui de l'architecture vivante, imprimé en 1923 par Badovici. Donc vous pouvez le lire comme moi. Technique, c'est un assez joli texte. Technique, il s'ouvre par technique et il se termine par architecture. Technique, permanent hommage rendu à la nature, essentiel aliment de l'imagination, authentique source d'inspiration, prière de toute la plus efficace, langue matérielle de tout créateur, technique parlée en poète nous conduit en architecture. Avisé encyclopédique, technique et architecture tirent de l'histoire des enseignements diamétralement opposés à ceux de l'architecture française, bien que les deux revues partagent quelques auteurs, notamment Moreux. La perspective des numéros est typologique ou thématique ou centrée sur des matériaux, le bois, essentiel dans l'économie de l'occupation, est traité deux fois, ou des enjeux comme ceux de la standardisation ou parfois de l'enseignement. Délibérément documentaire et fermement technique, à un moment où ce terme « technique » semble parer de vertus magiques, la revue forme une sorte d'encyclopédie publiée par fascicules dans laquelle la couche idéologique est souvent mince et de pure forme, beaucoup plus que dans technique et architecture. Mais revenons à la politique d'ensemble, pour conclure. Alors que la perspective d'un second front se précise en Europe, le régime de Vichy se raidit et devient une véritable officine de répression nazie. Dans l'administration des Beaux-Arts, Georges Hiller, proche de Pierre Laval, remplace en avril 1944 Hautecoeur. Laurence Bertrand d'Orléac a vu en lui, je cite, un administrateur plus moderne, plus corporatiste et dirigiste que Hautecoeur, historien de l'art écarté pour son manque de zèle pro-allemand. En juillet 1944, c'est le dernier élément précis, Hiller, il était un peu tard, s'adresse à une centaine d'artistes et de musiciens afin de créer auprès de lui un conseil actif et utile. Les architectes pressentis sont Pierre Barbe, moderne, Eugène Baudouin, Albert Laprade, Jean-Charles Moreux, Pacon, moderne aussi, Perret et Michel Rouspitz. La tendance dominante du groupe dans lequel on retrouve des protagonistes des deux revues opposées est nettement plus moderne que celle de toutes les instances formées auparavant par les organes de Vichy. Et ici, en conclusion, juste pour suggérer une piste, je ne puis m'empêcher de tracer un parallèle entre ce changement apparent d'orientation, cette inflexion, et celle qui s'était produite en 1943 en Allemagne, après le grand âge des projets de Speer, lorsque l'équipe de reconstruction, le Wiederaufbaustab créé par le fonctionnaliste Ernst Neufert sous l'égide de Speer, avait été formée exclusivement par des modernes. Mais en vérité, il y a fort à parier que, bien qu'il ait été un vigoureux pro-nazi, Hiller n'ait jamais eu connaissance de cet épisode. Merci.